réplique, quel avenir pour l'Europe, avec Jean-Louis Bourlange et Régis Debray. Aujourd'hui, avec Régis Debray, qui publie L'Europe fantôme dans la collection Tract que vient de faire renaître Antoine Gallimard, et avec Jean-Louis Bourlange, la conversation entamée la semaine dernière avec Rémi Brague et Jean-Claude Milner. L'Europe, en effet, est un sujet capital et inépuisable. Il y va de notre identité, de notre mémoire, de notre destin et de notre place dans le monde. Mais j'ai scrupule à insister. Malgré l'exceptionnelle qualité de l'affiche d'aujourd'hui, j'ai peur de faire fuir certains auditeurs fatigués à l'avance. Car l'Europe ne suscite plus l'enthousiasme, elle fait bâiller. Ce qui, dans la prochaine consultation électorale, passionne les observateurs, ce n'est pas tant l'avenir du vieux continent que la compétition hexagonale entre le Rassemblement national, les Républicains, la République en marche et la gauche émiettée. On a beau rappeler que la paix règne entre nos nations depuis plus de 70 ans, ou souligner avec Peter Sloterdijk qu'avec quelques 500 millions d'habitants, l'Union européenne illustre pour la première fois qu'une grande structure politique peut exister sans être un empire, ces miracles sont tombés dans la grisaille. Comme vient de me l'apprendre Jean-Louis Bourlange, Claude Imbert disait « Quand j'entends parler d'Europe, je sors mon oreiller ». Je vous pose donc la question. Pourquoi un tel désintérêt, un tel manque de motivation perceptible même chez les europhiles? Pourquoi l'Europe, si chargée de gloire et de prestige, est-elle maintenant associée à l'ennui? Régis Debray.
Oui, vous avez du mérite, mon cher Alain, d'insister, parce que un sujet capital, dites-vous, mais en tout cas, une marque qui ne fait pas vendre. Alors, pourquoi? D'abord, cette Europe ne convoque pas l'imaginaire. Il n'y a pas d'État social sans fiction, disait Valéry. Et là, la fiction ou le grand roman ou la légende, on ne la trouve pas. L'absence de corps. L'Europe est n'a ni visage, ni rivage, ni contour, ni compteur, je dirais. Et donc, c'est quelque chose d'un peu flasque, ectoplasmique. Par ailleurs, l'économie ne fait pas rêver. Et le consensus non plus. Et comme l'Europe, contrairement à ce que vous venez de dire, mon cher Alain, n'est pas une structure politique, mais est une structure antipolitique.
Je citais Sloterdijk.
Il se trompe. L'Europe ne fait pas de politique, c'est bien pourquoi elle ennuie tout le monde. Et c'est vrai que le budget, la règle des 3% et les problèmes financiers ne sont pas propres à mobiliser les imaginaires. Donc, je vous trouve bien du mérite à insister. Vous avez raison, parce que c'est tout de même, peut-être pas un sujet capital, mais qui pose la question de notre avenir.
Oui, mais pourquoi parlez-vous nécessairement de légende ou d'imaginaire, Régis Debray? Après tout, l'Europe a une histoire, l'Europe a une civilisation, c'est par-delà les différences entre les nations une certaine forme de vie, reconnaissable entre toutes, dès lors d'ailleurs qu'on quitte le vieux continent, l'Europe au vieux parapet, et tout cela est bien consistant, bien réel, et on peut reprocher à l'Europe, comme vous le faites d'ailleurs dans l'Europe fantôme, à l'Union européenne, d'être elle-même incorporelle, c'est-à-dire de ne pas tenir compte dans la définition d'elle-même de cette identité qui n'a rien de fictif, qui n'a rien de légendaire, Régis Debray.
L'Europe ne veut pas d'histoire. Elle oublie qu'elle en a une, et je crois qu'elle a la volonté de n'en plus avoir. Je crois que l'Europe est l'alibi d'une démission, d'un renoncement et peut-être d'une fatigue. Parce que c'est vrai qu'après avoir fait beaucoup d'histoires, avoir connu beaucoup de tragédies, on a peut-être le droit de prendre sa retraite. Je dirais que c'est un faux fuyant pour fuir ses responsabilités qui sont très lourdes, c'est vrai. Si on prend de front les problèmes de souveraineté, par exemple, c'est vrai que cela exigerait des cassures, des engueulades. L'Europe est fade parce qu'elle est fondée sur le consensus et à 27, on ne peut dire que des lieux communs.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que c'est une question assez centrale que de cet objet d'ennui qu'est l'Europe. D'abord, je crois qu'il faut vraiment distinguer entre l'Europe et l'Union européenne. Hein, c'est pas du tout la même chose, mais les deux posent problème. Le problème de l'Europe, c'est bien celui que vient de dire Régis Debray, c'est celui d'une fatigue, d'une sortie de l'histoire en 1945, d'une peine à y rentrer. Et je crois qu'il faut en tout cas ne pas du tout mettre en cause au premier chef les institutions européennes qui ne sont sur ce point que l'expression de la fatigue des gouvernants, du court-termisme des gouvernants, qui eux-mêmes sont l'expression de la lassitude des peuples. Nous ne sommes pas, qu'on parle de la France ou qu'on parle de l'Europe, je me rappelle les discussions que j'avais avec Max Gallo, il rêvait d'une France qui était celle de 1914, qui pourrait se mobiliser. Non, la France est celle que décrit Jérôme Fourquet, une France archipélisée, une France fragmentée, une France individualiste, une France démobilisée. Il en est de même pour l'Europe. Sur l'Union européenne, je crois qu'il faut voir l'origine de l'affaire. Selon moi, il y a, par rapport aux Français notamment, la summa divisio de la politique extérieure de la France, elle naît du traité de Paris au XVIIIe siècle, c'est-à-dire de l'effacement de la France devant l'hégémonie anglaise qui s'assure le contrôle des Indes et qui prend le Canada et qui devient la première puissance. Face à cela, il y a deux réactions. Il y a la réaction Choiseul, Vergennes, Napoléon, De Gaulle, on peut nuancer Napoléon III, De Gaulle, qui est de dire « cette hégémonie est injuste, nous devons reconquérir le premier rôle, nous essayons de le faire, ça aboutit militairement à Waterloo ». Ensuite, Victor Hugo dit « mais notre grandeur n'est pas de ce monde, on invente en fait l'exception culturelle, c'est Victor Hugo qui l'invente en réalité, nous allons être les premiers parce que nous préfigurons la marche de l'humanité ». Et puis, ça c'est l'Europe des... Je dirais, pour emprunter une image de Michel Tournier, c'est l'Europe des Augustes, l'Europe qui s'expose, l'Europe qui agit, l'Europe qui s'agite. Et puis, il y a à côté l'Europe des clowns blancs, dont le modèle est Talleyrand. C'est Guizot, Louis-Philippe, c'est après Briand, c'est après Schumann. Ce sont des gens qui disent « nous avons perdu la première place ». Les Anglais, puis les Américains, c'est un fait. Mais nous avons d'immenses ressources et nous devons donc organiser des coopérations. Et c'est très net que la passion, l'émotion est du côté des Augustes et pas du côté des clowns blancs. Regardez la crise de 1840, hein, grande crise franco-anglaise où les Anglais, Palmerston, nous humilient en permanence. Et Louis-Philippe, contre toute l'intelligentsia, contre Chateaubriand, contre Musset, contre tout le monde, dit « je fais la paix ». Et à la fin de la crise, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « j'ai évité la guerre ». Et on lui dit pourquoi ? Parce que j'ai pensé à l'Alsace. Donc il avait compris en 1842 que, en réalité, s'il y avait une grande secousse européenne, ce serait au détriment de la France et ça se traduirait par la perte de l'Alsace. Et alors ce projet est évidemment pas du tout un projet rêveur. C'est un projet, l'Europe est une cité froide, une cité de la raison, une cité de la négociation, avec ce facteur aggravé qu'avait exposé Monsieur Milner la semaine dernière, à savoir qu'il y a un problème de langue. Donc tout ça fait que c'est pas très rigolo, c'est quelque chose d'assez sec. En plus, sur le plan politique, je ne suis pas d'accord avec Régis Debray sur le fait de dire que l'Europe n'est... Enfin, je suis à moitié d'accord, que l'Europe n'est pas politique. Si vous parlez de compétences, vous avez tout à fait raison. Contrairement à ce que disent la plupart des adversaires de l'Union européenne, l'Union n'est pas du tout un monstre qui a tout dévoré. La porte sacrée du politique, en termes de compétences, n'a jamais été franchie. Soit que les compétences politiques n'appartiennent pas à l'Union, soit quand elles lui appartiennent, qu'elles lui appartiennent sur le mode de l'unanimité, donc avec le donner et retenir, c'est-à-dire que je décide à l'unanimité, donc je reste, en fait, je fais ce que je veux. Ça, c'est vrai. En revanche, sur le plan politique, ce sont bien nos chefs d'État et de gouvernement régulièrement élus, selon des modes d'ailleurs qui sont très régressifs par rapport à ce qu'ils étaient au moment des traités de Maastricht, qui fonctionnent. On est rentré dans un intergouvernemental, et là, à 27, vous avez raison, quand on est à 27 en intergouvernemental, on ne peut pas fonctionner. Imaginez que le président Trump, au lieu d'avoir le président Trump, ce qui serait peut-être d'ailleurs mieux si on ne l'avait pas, on est 50 gouverneurs des États-Unis qui doivent décidée à l'unanimité. Donc il y a une vraie faiblesse institutionnelle, mais c'est quand même les hommes et les femmes politiques qui dirigent l'Europe. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas exonérer ni les peuples, ni les dirigeants d'une responsabilité qui n'est pas celle des technocrates de Bruxelles.
Régis Debray.
D'abord, vous avez parlé de Gaulle. C'est vrai que de Gaulle a été un grand Européen, contrairement à ce qu'on croit. Il a scellé la réconciliation avec l'Allemagne. Il a inventé la coopération de la jeunesse franco-allemande. Il a proposé un traité qui a été refusé par le Bund. Bref, mais vous avez parlé de Gaulle et vous n'avez pas dit ce que de Gaulle pensait à la fin de sa vie et qu'il a confié à Malraux dans Les chaînes qu'on abat. Donc nous sommes en décembre 69. Qu'est-ce qu'il dit ? Sans doute assistons-nous à la fin de l'Europe. Bonne chance à cette fédération sans fédérateur. Ou encore, s'il faut regarder mourir l'Europe, regardons, ça n'arrive pas tous les matins. Après viendra la civilisation atlantique. Voilà donc un homme dont les pronostics sont généralement corroborés par les faits. Il pose donc la question centrale, qui est « qui dirige quoi ?». Je trouve ça très amusant qu'on parle aujourd'hui de la souveraineté européenne. La souveraineté européenne, c'est comme l'amour, ça consiste à donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose qu'on n'a pas. C'est-à-dire, l'Europe ne veut évidemment pas de souveraineté, elle trouve très confortable le fait d'avoir délégué sa protection aux États-Unis et à l'OTAN.
Maintenant, et on a quand même l'impression qu'avec Trump, l'Europe se rend compte qu'elle ne peut plus déléguer.
Oui, une chose est de s'en rendre compte, autre chose est de passer à l'acte. Les Allemands ne veulent pas d'une Europe puissance. Et ne parlons pas des autres pays, notamment des pays de l'Est européen. Donc c'est et quand on parle d'une défense européenne, nos généraux sourient, apitoyés sur le côté chimérique de cette proposition. Donc nous n'avons pas, si vous voulez, de moteur à cette Europe. Je crois que cette Europe relève d'une illusion au sens freudien du mot, c'est-à-dire d'une croyance dans la motivation de laquelle prévaut le désir. Et le désir d'Europe, il est très légitime. Qui ne désirait avoir une Europe post-tragique, une Europe pacifiée, où il n'y a plus de soldats mais des magistrats, on est tous d'accord. Le problème, c'est que ce désir s'est toujours cassé la figure depuis 100 ans. Car vous avez tout à fait raison, Monsieur Bourlange, il faut distinguer l'Europe de l'Union européenne. Mais il y a beaucoup d'Europe depuis 100 ans. Il y a eu l'Europe de la chrétienté, celle dont parle Claudel, il y a eu l'Europe de l'esprit, celle dont parle Valéry, il y a eu l'Europe de la force, qu'on oublie un peu, l'Europe de Drieux, La Rochelle, l'Europe de la division Charlemagne, et il y a enfin l'Europe de la monnaie. Mais on fait pas un peuple avec de la monnaie, et on fait pas un peuple avec un parlement, on met la charrue avant les bœufs. Et le grand problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen, mais l'Europe n'a jamais été un peuple. Vous avez employé le mot « archipel ». Je suis tout à fait d'accord. L'Europe est un archipel.
C'était la France.
Je dis, comme Élie Faure en 1932, qui part explorer ce qu'il appelle l'archipel européen, en analysant, en décrivant les âmes des différents pays, et je crois effectivement que l'Europe est un archipel, et que la désagrégation de l'Union qui, sauf complication, finira bien par se désagréger, sera l'expression de l'Europe même. L'Europe se retrouvera telle que son histoire l'a faite, livrée à des coopérations, des alliances, des retournements d'alliances. Donc, je dirais que la fin de l'Europe, ce sera les retrouvailles avec l'Europe.
Je voudrais là vous poser une question à tous deux, à partir de ce que vous venez de dire, Régis Debray. Alors d'abord, Valéry tient compte du christianisme dans sa définition de l'Europe.
Évidemment.
C'est Rome, le christianisme et la Grèce. Voilà les trois grandes composantes
tout à fait
pour lui de l'Europe.
Tout à fait.
Mais vous dites, l'Europe actuelle, c'est l'Europe de la monnaie. Pas seulement. Parce que vous écrivez aussi, exister, c'est se séparer, s'opposer et exclure. C'est, donc pour que l'Europe existe, il faudrait qu'elle accepte de se séparer. Mais précisément, elle ne l'accepte plus, l'Europe post-hitlérienne, parce qu'elle ne veut pas mettre le doigt dans l'engrenage de l'exclusion. Elle rêve, ou elle incarne le rêve, d'une humanité que ne romprait aucune séparation intérieure. Donc, d'ailleurs, vous l'avez dit, Jean-Louis Bourlange, dans un article de Politique internationale, on a voulu construire l'Europe sur des valeurs universelles. Simplement sur des valeurs universelles.
Et enfin, oui, sur les quatre principes de Roosevelt, les quatre libertés de Roosevelt.
Les droits de la personne, et non sur l'agrégation des singularités historiques et géographiques. L'Europe a voulu s'arracher au carcan de l'histoire et de la géographie. Donc, elle a choisi de n'être rien qu'une pure ouverture. C'est un nihilisme hyper moral, dans lequel, me semble-t-il, les peuples ne se reconnaissent pas, parce que, là, je pense qu'il y a une identité nationale et une identité européenne, auxquelles d'ailleurs les peuples sont renvoyés par ce qu'on n'ose plus appeler le choc des cultures et le choc des civilisations, d'où, je crois, une sorte de fossé entre des technocrates ou des europhiles hors sol et des peuples européens qui veulent pouvoir persévérer et dans leur être national et dans leur être européen, mais pour qui l'Union européenne n'est pas la bonne solution, du fait justement de cet entraînement ou de cette religion de l'humanité qui tient lieu d'Europe aujourd'hui.
Oui, d'abord, un mot très rapide pour dire que je suis tout à fait conscient, comme Régis Debray, de la difficulté de la tâche. Faire une Europe sans fédérateur et sans autrement que par le fer et par le sang, pour reprendre les paroles du regretté Bismarck, c'est difficile. Deuxièmement, c'est extrêmement difficile. Régis Debray insiste beaucoup, à juste titre, sur ce thème qui est le thème de sa vie. En réalité, c'est très difficile de s'émanciper d'une puissance américaine qui a cessé d'être bienveillante, qui veut rester tutélaire, mais qui a cessé d'être bienveillante. Là, je mesure l'ampleur de la tâche, mais pour répondre précisément à votre question, Alain, je pense que, en fait, il y a une dualité de projet derrière l'Union européenne. Et c'est cette dualité qui n'a jamais été vraiment arbitrée et qui ne l'est pas encore, qui explique une des grandes difficultés d'identification du projet. Disons qu'il y a une aspiration à la paix et il y a une aspiration à la puissance. L'aspiration à la paix, c'est de dire que l'Europe doit être un instrument visant à surmonter des altérités. L'altérité franco-allemande, parce qu'on n'est pas fait comme les Allemands sont pas faits comme nous. Ce que Cohn-Bendit dit en disant, il y a trois miracles, le miracle du Rhin, le miracle de la Vistule, où il faut réconcilier les Slaves et les Allemands, et le miracle du Bosphore, où il faut réconcilier tout le monde avec la chrétienté, avec la Turquie. Ça, c'est une conception de la paix qui conduit à une dilution permanente de l'Europe, qui conduit au refus des frontières, oui, au fait que la politique extérieure de l'Europe, c'est en fait l'assimilation du voisin, c'est donc un élargissement permanent, et ça tend objectivement à la constitution d'une sorte, non pas de fédération européenne, mais de coopération renforcée de l'ONU. C'est-à-dire, on a à ce moment-là une communauté, c'est ce que disait Rocard. Rocard était très cohérent sur ce plan, il était favorable à l'adhésion de la Turquie, à ma différence, et il disait, la communauté européenne, ce sera une communauté de droit, on aura des règles communes, mais ça veut dire qu'on n'aura pas de politique commune, on n'aura pas de budget commun, ce seront simplement des échanges civilisés. Ça, c'est une première dimension, et c'est une dimension qui a été, dans les années 90, soutenu à la fois par les plus idéalistes des Européens, justement, à la Commission, et les plus opposés à l'intégration européenne, comme les Britanniques, qui disaient, avec ça, on est bon, Berlusconi était pour cette ligne, Aznar était pour cette ligne, Chirac était pour cette ligne, en disant, avec ça, on est bardé, on n'aura pas de fédération, on n'aura pas d'unité politique, on aura un machin qui va se diluer progressivement, c'est très bien. Mais l'autre projet, qui est beaucoup plus le projet, à la fois sur ce plan, malgré leurs différences institutionnelles très puissantes, de Robert Schuman et de Gaulle, c'est de dire, l'Europe, c'est rien. Qu'est-ce qu'était l'Europe, pour parler comme Sieyès, qu'était l'Europe en 1914? Tout. Qu'était-elle en 1945? Rien. Qu'aspire-t-elle à devenir maintenant? Quelque chose. Et là, il faut faire renaître une civilisation. Et là, ça implique une toute autre grammaire. Ça implique qu'on reconnaisse la politique. Ça implique, et c'est ce qu'on a fait, Maastricht est une consécration des institutions démocratiques, contrairement à ce qu'on a dit. Ça implique effectivement qu'on réfléchisse aux frontières, et la frontière, et je termine là-dessus, parce que je vois que vous souhaitez que je m'interrompe, parce que
je comprends
très bien.
Pas de non, je ne souhaite pas que vous interrompiez, oui. Je souhaite vous poser une question.
Oui, attends, je finis juste allez-y. Ça. Je dirais que comment poser le problème que pose constamment Régis Debray, à juste titre, de la frontière, je dis que là, il y a une double référence qui a été évoquée avec Habermas, etc., à l'histoire et à l'avenir. L'histoire, vous avez évoqué toutes les bonnes fées, Jérusalem, Rome, Athènes, etc., qui sont sur le berceau de l'Europe. Je crois que l'Europe est née pratiquement au 5e siècle, et elle est née, pour parler très sommairement, c'est la civilisation qui a le plus profondément assumé ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, ce qu'on appelait du temps de Pascal, la distinction des trois ordres, c'est-à-dire le temporel, l'intellectuel et le spirituel, qui portent en eux l'autonomie du pouvoir politique et sa démocratisation, la liberté de l'esprit, la conquête technologique et donc la croissance, et la liberté de conscience donnée à chacun. Alors, cette histoire-là, il faut y être fidèle. C'est pour ça que nous sommes très profondément gênés par Orban. Parce qu'Orban met en cause le lien démocratique, le respect des droits. Ça, c'est une histoire. Nous sommes les seuls dans le monde actuellement à défendre ça. Et quant au projet, eh bien, le lien, c'est est-ce que nous sommes d'accord les uns et les autres pour le faire ensemble. Et là, ça pose un problème de modèle démocratique. Et ce que je reproche à tous les Européens, c'est de ne pas réfléchir intelligemment à ce qu'est une démocratie à 27, une démocratie, on pourrait dire, par rapport à une démocratie nationale, car les solutions existent à condition de poser les problèmes.
Régis Debray.
L'Europe a délégitimé les frontières intérieures de l'Union. Oui. Sans définir clairement sa frontière extérieure. Et on ne détruit que ce qu'on remplace. Et la frontière n'est pas remplacée puisqu'il n'y en a plus. Donc il n'y a pas de corps politique. Le propre d'un corps politique, c'est d'avoir des limites et surtout de se poser en s'opposant. Encore faut-il admettre qu'on a un ennemi, ou plusieurs.
Ou qu'on a une altérité aussi, qui n'est pas forcément un ennemi.
Et c'est vrai que l'Europe a existé devant les Sarrasins, devant l'Empire ottoman, et pour aller vite, devant l'Union soviétique. En sens, je crois que le rôle de Staline a été fondamental, il faut bien le dire, après 1945.
Rendons aux camarades
Joseph Tariq le fait d'avoir été le pôle répulsif, car les communautés sont faites beaucoup par la peur, beaucoup plus que par l'intérêt. Et donc, je ne crois pas dans le patriotisme constitutionnel de Habermas. C'est une idée de philosophe pour philosophe. Mais ce patriotisme chlorotique et sans patrie, ça ne fonctionne évidemment pas. Donc le rêve d'une Europe gouvernée par la raison, selon l'optimisme libéral, l'Europe qui n'a plus d'avenir, mais quel serait l'avenir de l'Europe? On peut se poser la question. C'est un temps où la gestion et le droit remplaceraient la politique et les conflits. Mais ça, personne ne veut de cet avenir, qui est d'ailleurs totalement improbable, car on assiste au retour du refoulé, c'est-à-dire le retour des récits nationaux, le retour des singularités qui font le prix de l'Europe. L'Europe, c'est orchestral, c'est magnifique, c'est polyphonique. Mais encore faut-il qu'elle ne devienne pas monodique, car elle devient alors extrêmement ennuyeuse. Et comme on ne peut pas s'identifier, aucun Européen ne peut s'identifier à une personne qui s'appellerait l'Europe, puisqu'elle n'est représentée par personne ni par rien, eh bien, on retrouve les archaïsmes fondateurs, c'est pas ce qu'on fait de mieux, parce que c'est un peu dangereux, mais on n'y échappera pas. Donc je crois que l'Europe est un faux fuyant. L'Europe traduit un sentiment de relâchement, de peur, d'effacement. Et je dis, bon, bah écoutez, il restera une union douanière. Bon, mais qui rêve de ce que les déclarations originellement disaient? On cherche une union toujours plus étroite entre les peuples, disait-on. Bah écoutez, la division est de plus en plus manifeste entre les peuples. Donc on peut dire qu'en ce sens-là, politiquement, c'est un échec patent.
Mais vous disiez, Jean-Louis Bourgeange, l'Europe veut être quelque chose. Une part des Européens veulent que l'Europe continue à n'être rien pour être fidèle au plus jamais ça. Et je remarque par exemple même que Olivier Abel dans la revue Medium,
excellente revue, comment peut-on être européen,
eh bien s'étonne encore du refus de l'Europe à intégrer la Turquie en disant que l'Europe ne doit pas être un club chrétien, c'est-à-dire rien d'identitaire pour les Européens. Et vous parliez d'Orban. Certes, mais c'est très intéressant parce que Kundera a consacré un article sur l'Europe comme Occident kidnappé, un Europe centrale, et il commence par une anecdote. 1956, le directeur de la radio hongroise, elle va être bombardée et il dit ceci dans un telex qu'il envoie dans le monde, nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe. Disons, identité européenne, identité nationale allant de pair pour lui. Et c'est comme ça que l'Europe était vécue en Europe centrale. Et aujourd'hui, je ne veux évidemment pas défendre la politique sociale et voire antidémocratique d'Orban dans son propre pays. Mais il y a les Tchèques, il y a les Slovaques qui ne veulent pas que l'Europe devienne une société multiculturelle au nom de ce qu'ils croient être l'Europe. Donc il y a d'un côté ceux qui vivent l'Europe comme une identité, de l'autre côté ceux qui vivent l'Europe comme un ensemble de normes et de procédures, malentendus grandissant entre les uns et les autres, puisque les premiers sont traités de populistes et qu'on veut faire campagne aujourd'hui, notamment à La République en Marche, contre les 50 nuances de brun, pour parler comme Nathalie Loiseau, c'est-à-dire d'un côté le progressisme européen, de l'autre côté la lèpre populiste. Alors que pensez-vous? Vous reconnaissez-vous dans cette opposition et peut-on en sortir par le haut?
Il y a plusieurs questions dans votre interpellation.
Oui, je suis désolé.
D'abord, je ne suis pas très à l'aise avec cette distinction entre progressiste et populiste. Je la trouve d'abord meilleure qu'entre progressiste et nationaliste. Parce que je crois que le populisme existe. En revanche, je crois que le progressisme, ça demande une définition bien, beaucoup de nuances. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai clivage à l'intérieur de l'Union européenne et à l'intérieur du pays entre des gens qui voient différemment leur avenir. Et il y a une pression que je crois très forte et très inquiétante vers la régression vers des régimes autoritaires, vers la régression économique vers des systèmes protectionnistes, on dit protectionniste intelligent, ce qui sous-entend que le protectionnisme est a priori idiot, et vers des conceptions, je dirais souverainistes, c'est-à-dire des conceptions paralysantes. Parce que je crois que le déficit démocratique, c'est un déficit du kratos, beaucoup plus que du démos. C'est l'impossibilité pour les Européens de prendre des décisions, parce que précisément, ils n'ont pas réfléchi à leur modèle. Donc je crois que ça existe. Et je crois que Emmanuel Macron, sa liste, et l'organisation de la politique en France, maintenant, correspond à ce clivage. Là où je ne suis pas d'accord avec le progressisme, c'est que je crois que notre avenir est au futur antérieur. C'est-à-dire que, personnellement, je suis très attaché à l'héritage des Trente Glorieuses, qui n'est pas parfait, bien entendu, mais je pense que nous avons rebâti une civilisation que Régis Debray n'aime pas parce qu'il la qualifie d'occidentale et pas d'européenne, et il a à bien des égards raison, mais je rappellerai que le général de Gaulle, qu'il aime à citer, disait « l'Europe et l'Amérique, sa fille », donc il y a des liens profonds.
Valérie disait la même chose, quand même. Il disait que l'Amérique, c'est une projection de l'esprit européen.
Il disait que l'Amérique était une banlieue de l'Europe, et d'ailleurs, il n'a jamais daigné y faire un voyage.
Non, Anna, sauf pour les obsèques du président Kennedy.
Mais ça, c'est Valérie, non.
Je parlais de De Gaulle, excusez-moi. Donc, on est dans une situation où je pense que nous avons vraiment des valeurs absolument particulières. Je ne suis pas tout à fait, même assez éloigné de la déclaration de Paris que vous avez abondamment citée la semaine dernière, parce que je crois qu'il y a une confusion entre les valeurs chrétiennes traditionnelles et les valeurs européennes. Nous vivons précisément une disjonction des deux, et c'est une disjonction très difficile à vivre, mais il est évident que nous avons un patrimoine de valeurs que j'évoquais tout à l'heure en évoquant les trois ordres, qui est absolument spécifique. Et de ce point de vue-là, je n'ai jamais compris qu'on imagine que la Turquie puisse rentrer dans l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est qui défendait l'entrée de la Turquie ? Berlusconi, vous n'allez pas me dire que c'est un adepte de la pensée, de la construction européenne. Aznar, qui était un un sympathique franquiste à visage humain. Chirac, qui a toujours rêvé, comme vous le savez, de l'empire des steppes et qui trouvait que la civilisation telle qu'il la voyait à Rome était quelque chose de très artificiel. Les mémoires de son directeur de cabinet, Biot, sont très, très éclairants à cet égard. Donc tous ces gens-là sont entre Schröder, qui disait à l'époque « je n'avais pas éteint toute trace de populisme en moi », ce sont ces gens qui, à Helsinki, ont décidé de l'entrée de l'Union européenne. Les vrais Européens, si je puis dire, c'est-à-dire ceux qui ont été écartés du pouvoir pendant 20 ans, parce que les Européens, dans mon genre, nous ne sommes plus au pouvoir en Europe depuis pratiquement le départ de Mitterrand, de Delors, de Balladur, de Barre, de Giscard, etc., et partout. Eh bien, tous ces gens ont en réalité nié l'idée d'une Europe et ont voulu la diluer à fond. Nous sommes absolument convaincu qu'il n'y aura pas d'Europe possible si on ne reconnaît pas le patrimoine culturel, politique, la particularité, et je dirais même l'Europe charnelle, pour parler comme la Déclaration de Paris. Je pense que c'est fondamental et que c'est ce virage-là que Emmanuel Macron n'a pas, à mon avis, bien qu'il ait fait des choses très intéressantes dans son discours de la Sorbonne, n'a pas pleinement saisi. Il le côtoie, il le comprend, mais il n'a pas suffisamment théorisé. Et face à tout cela, je crois que la grande difficulté, c'est pas l'Europe de l'Est. La grande difficulté, c'est de savoir si l'Allemagne est capable de se remettre dans un jeu dans lequel elle ne considère pas que l'arbitrage, c'est la négation du droit, et dans lequel elle ne considère pas que la force, c'est nécessairement une dérive vers la violence. Et là, nous sentons une prudence allemande qui, effectivement, va dans le sens de ce que dit Régis Debré, c'est-à-dire une extraordinaire frayeur à l'idée de passer, de basculer dans une Europe qui assumerait ses responsabilités politiques.
Pour des raisons qui...
Pour des raisons qu'on comprend très bien, oui, bien sûr.
C'est toujours cette Europe post-hitlérienne dont je parlais. Régis Debré.
Oui, plusieurs points pour répondre à ce que vous disiez, Alain. Braudel l'a bien dit, un Européen même athée est de sang chrétien. Il ajoutait d'ailleurs, oui, à l'unité, la culture répond oui, l'économie répond peut-être oui, la politique répond non. Il n'y aura pas d'unité politique de l'Europe, disait Braudel. Maintenant, disons, cette remarque prend de plus en plus d'actualité. Pourquoi ? Parce que l'Europe est un anachronisme. Vous parliez de... Mon cher Bourlange, de progressisme et de progrès. Mais vers où le monde marche aujourd'hui? Il marche vers la dissolution des blocs. Et l'Europe est le seul bloc subsistant. On voit partout la renaissance des États. On voit partout la défédération. Que ce soit les États-Unis, la Chine ou la Tchécoslovaquie qui devient la Tchéquie d'un côté, la Slovaquie de l'autre. L'heure est, je dirais, à l'éclatement des unités plus ou moins postiches, artificielles ou volontaristes. L'heure est vraiment, je dirais, au retrouvailles avec un passé plus ou moins inventé, mais avec une tradition propre. Et donc, je pense que l'Europe est à contre-courant en ce moment de l'évolution du monde. Et enfin, troisièmement, l'Europe est-elle réformable? Honnêtement, je ne le crois pas. Hélas, parce que les traités sont ce qu'ils sont, on ne peut pas les refaire. Le Conseil européen vote à l'unanimité, donc il suffit d'une voix pour tout bloquer. On est même au point où une petite opération militaire dans la Méditerranée qui s'appelait Sofia, avec 3 gardes-côtes et 2 hélicoptères, on n'est même pas capable de la mettre sur pied. Donc, il y a non pas un aveu, mais je crois profondément un désir d'impuissance, une volonté, comme vous le disiez à propos de l'Allemagne, de ne pas voir renaître les vieux démons, et donc de vivre dans une sorte d'euphorie économiciste où il n'y a plus de place pour les citoyens mais seulement pour les consommateurs, il n'y a plus de place pour les États mais simplement pour des États-entreprises. Autrement dit, c'est, je dirais, la victoire d'un modèle anhistorique.
Oui, je constate une petite remarque. D'abord, je constate que vous placez le débat à son juste niveau. C'est-à-dire pas celui de l'Union européenne, mais celui des peuples européens, des États européens. Est-ce que nous avons la volonté d'investir le 21e siècle? Est-ce que nous avons la volonté collective, quelles que soient les formes? Moi, j'ai des idées précises sur les formes juridiques que ça peut prendre, mais ça c'est très superstructurel, comme on disait dans une autre vie. En réalité, est-ce que nous sommes prêts à relever des défis qui sont très clairement communs. D'ailleurs, on a senti ça après le Bataclan, tout le monde a chanté la Marseillaise un peu partout. On sent bien que nous avons des tas de choses en commun, que nous sommes les seuls à les posséder, et que ce que les Européens ne feront pas pour l'Europe, personne ne le fera pour eux. Et là, il y a un doute très profond, et je partage votre doute. Mais arrêtons de faire de l'Union Européenne le bouc émissaire. Oui, c'est comme une SCI, dont on dirait que la coupe, les coupables, c'est la SCI, alors que c'est une copropriété d'un certain nombre de gens. La deuxième remarque, et là je suis en désaccord avec vous, c'est sur la crise de l'Europe par rapport aux États-nations. Je crois que nous avons une crise de la société politique infiniment plus profonde que vous ne dites. L'exemple le plus basique, le plus simple, c'est celui du Royaume-Uni. Nous voyons bien qu'au moment où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il est en proie à une dislocation profonde. Il vit une crise qui est à la fois une crise sociale, Angleterre du Nord contre l'Angleterre du bassin de Londres, une crise nationale avec un éclatement des nationalités. Nous avons reçu à la Commission des Affaires étrangères le Premier ministre, la Première ministre, comme on dit maintenant, je crois, je sais pas, c'est vous l'académicien.
Moi, j'ai une opinion dissidente.
Moi aussi. Mais je suis pas à l'académie. Donc, on l'a reçue, c'est une femme extrêmement remarquable qui n'a absolument aucune sorte de référence au Royaume-Uni. Elle fera peut-être pas l'indépendance parce que politiquement, elle peut pas la faire maintenant, mais ça n'existe plus pour elle. Donc, et enfin, une crise du système politique, du système bipartisan. En France, je trouve que le livre de Jérôme Fourquet est très éclairant. Je crois que d'ailleurs c'est ça que n'ont pas compris les conseillers du prince qui viennent de publier un livre extrêmement pauvre sur leur expérience.
Amiel et Emmanuel.
Ils n'ont pas compris que la France était en menace d'archipélisation. Nous avons un reflux du partage politique sur des entités de plus en plus petites, la ZAD par exemple, et au-delà de la ZAD, au bout du compte, la seule entité souveraine que les gens asymptotiquement sont en passe de reconnaître, c'est l'individu, c'est moi. La crise de la démocratie représentative, c'est simplement, je ne peux pas accepter que des décisions qui concernent moi soient prises par quelqu'un d'autre que par moi. Alors c'est asymptotique, heureusement, mais ça, c'est une... Alors évidemment, l'Europe, qui est la plus grande des fédérations, des coopérations, etc., est directement menacée, mais ne nous trompons pas, nous avons une crise profonde de la sociabilité politique, et c'est ce tissu qu'il faut recoudre.
Alors, ce tissu, il faut le recoudre, mais il me semble qu'il y a une divergence fondamentale autour de ce qui reste de l'idée européenne. Et pour capter votre bienveillance, Régis Debray, je vais vous citer Valéry. Je n'avais jamais songé qu'il existât véritablement une Europe. Ce nom ne m'était qu'une expression géographique. Nous ne pensons que par hasard aux circonstances permanentes de notre vie. Nous ne les pensons qu'au moment qu'elles s'altèrent tout à coup. Et moi, j'ai le sentiment aussi d'une... Mais alors, il y a une manière de vivre l'altération qui est celle de certains macroniens et de Bernard-Henri Lévy.
Je vous reconnais bien là.
Oui.
Alors, parce que vous l'avez dit, vous avez expliqué un jour, je crois, à l'Académie d'ailleurs, que vous aviez commencé à aimer la France au moment où vous sentez qu'elle échappait. Cette espèce de nostalgie proustienne qui fait que les choses ne sont réelles que quand elles disparaissent, c'est admirable. Mais politiquement, c'est très difficile.
Attendez, mon cher Bourland, qui est un Européen? Celui qui a la nostalgie de l'Europe.
Kundera.
Oui, je suis d'accord. Mais je ne critiquais pas Alain, je le constatais.
Non. Je me référais au patriotisme de compassion de Simone Veil, tendresse pour une chose belle, précieuse et périssable. Donc, mais il y a une manière de penser l'altération qui est celle de Bernard-Henri Lévy et d'un certain nombre d'écrivains, prix Nobel. Il y a feu dans la maison Europe. Ils dénoncent les incendiaires et ils disent que le temps est revenu de se battre pour la civilisation face, effectivement, au péril brun, au péril des populistes. Il y a une autre manière de vivre cette altération, c'est-à-dire se dire, en effet, que l'identité européenne, dont certains prennent conscience, justement, aujourd'hui, est menacée. Vous avez parlé du Bataclan, nous sommes en terrasse. Elle est menacée pas seulement par le terrorisme, par une fragmentation des sociétés. Et tout cela, on le connaît. Alors, de quoi l'Europe doit-elle être la solution, si vous voulez? Régis Debray.
Vous avez cité Valéry, qui est effectivement un médium extra-lucide, qui a toujours 20 ans ou 30 ans d'avance sur son temps. Mais le même Valéry que vous avez cité, il dit à T.S. Eliot en 1945, « L'Europe est morte ». C'est-à-dire l'Europe, mère des arts, des armes et des lois, si vous voulez, l'Europe qui pouvait universaliser ses idées et ses images. Il a tout de même dit, l'Europe n'a pas eu la politique de sa pensée.
Absolument.
C'est un objet de pensée qui n'arrive pas à être un sujet collectif. Il a aussi dit « L'Europe aspire visiblement à être gouvernée par une commission américaine ». Il avait 30 ans d'avance sur la commission de M. Barroso. Donc, la phrase de Valéry est d'autant plus vraie aujourd'hui qu'on ne fait pas du commun avec de la concurrence libre et non faussée. Hein, ça, c'est une... Mais je suis d'accord avec vous, mon cher Bourland. C'est vrai qu'il ne faut pas faire de l'Europe un bouc émissaire et que toutes les valeurs ou les non-valeurs qui l'animent sont celles du moment actuel, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux, le fétichisme de l'économie, le démantèlement des régimes sociaux, etc. L'Europe ne fait que accélérer ou refléter ce train, pour ainsi dire, ce courant général. Mais ce qu'il faut, et là, se rendre compte, et vous le disiez bien, Jean-Louis Bourland, la balkanisation politico-culturelle avance du même pas que la mondialisation techno-économique. La mondialisation techno-économique crée un vide d'appartenance, donc un appel d'air pour la renaissance des appartenances, singulières, différentes, pour me différencier de l'autre, parce que le monde des objets, le monde des techniques, le monde des normes, des procédures, il est égal pour tous. Mais moi, je tiens à ne pas être égal pour tous, je tiens à être reconnu comme quelqu'un de différent. C'est pourquoi la balkanisation avance aussi bien dans notre pays que dans l'Europe, d'ailleurs, puisque les fossés s'agrandissent, même entre la France et l'Allemagne, n'est-ce pas? C'est flagrant. La lettre de Macron a été poliment jetée à la poubelle par la successeur de Madame Merkel. Et elle n'est pas d'accord, évidemment que les Allemands ne sont pas d'accord avec tout ce que la France propose, à commencer par l'idée que l'Europe puisse devenir une communauté politique. Elle n'en a aucune envie, car l'Allemagne a fort bien instrumentalisé l'Europe, d'abord pour réapparaître dans la communauté internationale après-guerre et aujourd'hui pour avoir fait son unité. Et puis maintenant, l'intérêt national est atteint. Ils vont passer à autre chose. Ils ont déjà tourné la page. Ils sont déjà dans un autre monde. L'Europe, malheureusement, mais croyez bien que je ne m'en réjouis pas. J'aurais tellement aimé une fédération, j'aurais tellement aimé, je dirais, une tierce puissance entre... Hein, je suis un tiers-mondiste, vous me connaissez. Moi, j'aurais aimé une tierce puissance entre l'Amérique et la Russie. Bon, mais je constate, elle n'a pas pris corps. Elle est irréelle. C'est pourquoi je parle d'une Europe fantôme. Et je parle d'une Europe, et je demande comment peut-on être européen, comme l'indique la magnifique revue Medium que vous avez en main.
Dont il est rédacteur en chef.
Oui.
Je dois le préciser.
Oui, oui. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment d'être européen selon un des auteurs de ce dossier, puisque précisément l'Europe ne doit pas être quelque chose, ne doit pas être un club chrétien, elle doit être valeur afin d'accueillir tout le monde.
L'Europe n'est pas un club. Je me rappelle ce qu'écrivait Le Goff là-dessus. Il disait que c'est quand même un grand laïc devant l'Éternel.
D'origine chrétienne.
D'origine chrétienne.
Et marié avec une polonaise.
Oui, les mêmes.
Donc, il est certain que les médiévistes aiment l'Europe des cathédrales.
Oui, bon. Et l'Europe des monastères, etc. Mais ce que disait très clairement Le Goff, c'est que il n'y a pas solution de continuité entre l'Europe chrétienne et l'Europe laïque. Alors, Philippe Reynaud, dans son excellent livre sur la laïcité, dit que c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il dit, notamment, il a jamais été, si l'Église a reconnu l'autonomie, même l'indépendance du prince, elle n'a jamais imaginé que son rôle pût être de ne pas maintenir la vraie foi. Bon, mais justement, on est passé, d'ailleurs, Philippe l'analyse très bien, on est passé à un stade différent, à partir de la division religieuse, à partir d'Henri IV, où le prince, la monarchie absolue d'ailleurs, a été le fédérateur d'un peuple qui était religieusement divisé. Et donc, le saut laïque s'est fait à partir de cela. Mais il y a quand même une profonde continuité dans cette histoire européenne, et nous en sommes comptables. Or, ce que je crois, moi, c'est... On peut être pessimiste, parce que Régis, il a toujours été pessimiste. Régis, vous êtes passé dans votre vie, que j'admire beaucoup. Vous savez, j'ai vécu, quand vous étiez en Bolivie, on vibrait. Je me rappelle la lettre d'Yvan de Limur disant, c'est dans l'Observateur, celui-ci nous doit, on lui doit tout, etc. On était très admiratifs, on l'est toujours, d'ailleurs. Vous êtes passé d'une utopie tiers-mondiste révolutionnaire, auquel j'ai pas... à une nostalgie. Et puis là, vous avez eu un court moment de participation au pouvoir. Ça a été 80, 82, mais vite, vous avez vu François Hollande et vous avez dit non, c'est pas ça que je veux. Bon, donc je comprends très bien. Moi, j'essaie d'être plus positif. J'ai du mal parce que je partage assez largement votre pessimisme sur l'avenir de l'Union européenne, mais je dis que les valeurs auxquelles nous sommes attachés les uns et les autres sont actuellement très menacées. Je ne vois pas qu'on puisse, au XXIe siècle, les défendre autrement qu'en s'unissant. Et un mot sur la construction européenne, la politique de sa pensée. L'Europe n'a pas eu la politique de sa pensée, dit Valérie. Dans son très beau livre sur la civilisation des Lumières, Pierre Chaunu, à la fin, fait quelque chose de très audacieux. Il explique que la concurrence, et vous y faites indirectement allusion dans votre tract, puisque ça s'appelle un tract, l'Europe fantôme, que la concurrence entre les États au XVIIIe siècle a été une source de progrès, d'émulation, de progrès général. Je crois qu'il a raison, mais ce qui, évidemment, il ne peut pas ignorer, et qu'il a ignoré, c'est que cette concurrence et cette émulation est devenue totalement folle à partir de la fin du 19e siècle. Et ce que nous sommes, ce que nous essayons de faire, c'est pas simplement, même si Monet avait des rêves de technocrates, etc., c'est pas d'oublier les États. L'Europe est c'est une Europe des États. Simplement, nous voulons que ces États soient organisés de telle manière qu'ils puissent faire converger leur politique vers un but commun au lieu de s'entre-déchirer comme ils l'ont fait jusqu'en 1945.
But commun, dites-vous, Jean-Louis Bourlange, mais est-ce que cette Union européenne a le désir et les moyens de défendre et de perpétuer l'Europe comme civilisation, puisqu'elle a voulu remplacer la civilisation européenne par la construction européenne?
L'Union n'a aucun désir. C'est est-ce que les Européens ont ce désir? C'est la grande question qui nous réunit aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse, mais je sais gré au président Macron, de ce point de vue-là, d'envoyer une lettre à tous les Européens, même s'il y a des choses, bon, c'est un petit peu de circonstances et propositions qu'il fait, en disant, nous allons élire un Parlement européen, donc le 26 mai prochain, est-ce que, oui ou non, nous sommes en mesure d'avoir, de franchir la porte sacrée du politique et d'aborder les défis du 21e siècle d'une façon cohérente? Nous avons vu jeudi soir un tas de gens qui, en règle générale, et c'était ceux qui étaient les plus entendus, on dit non, on s'en fiche, on reste basé sur nos ils ont ramené le débat à un débat horriblement franco-français. Non, ce n'est pas ça. L'enjeu des élections européennes est un enjeu de civilisation. Est-ce que nous... Enfin, première étape, est-ce que nous allons être capables de faire ça? Et ça passe, je reviens, et je suis d'accord sur ce point avec Régis Debray, ça passe sur la capacité des Allemands et des Français, parce que nous n'avons pas un fédérateur, mais nous avons toujours eu un couple fédérateur, Schmitt-Giscard, De Gaulle-Adenauer, Schumann-Adenauer, Mitterrand-Kohl. Est-ce que nous avons un couple fédérateur qui est capable de donner le là et d'indiquer une direction commune? Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y a pas de salut en dehors de cela.
Régis Debray.
Vous parlez de civilisation, mais comme l'a vu Valérie, dès 1945, l'axe de la civilisation occidentale a franchi l'Atlantique. Nous n'avons plus la maîtrise de notre imaginaire. La preuve, il n'y a pas de cinéma européen, il y a un cinéma américain. Et les seuls acteurs de cinéma qui sont communs à toute l'Europe sont des acteurs américains. Il n'y a aucun acteur européen. C'est un symptôme, mais c'est intéressant. Et c'est précisément parce que l'Europe, un jour, a été remplacée par l'Occident. L'Occident a un leader, c'est les États-Unis d'Amérique. Je pense que nous avons, en quelque sorte, été dépossédés de notre centralité, même si l'Allemagne reprend sa centralité au sein de
l'Europe. Quand même, les plus grands cinéastes du monde, c'est quand même Fellini et Bergman, qui ne sont pas européens, mais qui sont d'Europe.
Non, il y a des remarquables coproductions au cinéma franco-italienne, franco-britannique, etc. Mais il n'y a pas de cinéma européen, il y a des zéro-puddings, et les zéro-puddings, ça ne marche pas. Donc, bien sûr qu'il y a encore, par chance, une vitalité artistique. Mais moi, je suis comme vous, mon cher Bourlange. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. Et je ne suis pas inquiet, parce que je sais que les anciens parapets, ils vont revenir demain. Donc, je n'ai pas de regrets. J'ai simplement une sorte de résignation, un peu pas morose, mais disons, sereinement désespérés, nous allons retourner à l'Europe de toujours, qui est l'Europe des alliances, l'Europe des ententes ou des mésententes. Pourquoi ? Parce que votre Europe, mon cher Bourlange, elle avait deux étais, elle avait deux supports. Il y avait la démocratie chrétienne et les sociaux-démocrates, c'est-à-dire qu'il y avait un messianisme du salut, illustré encore par le drapeau européen qui, comme vous le savez, vient de l'Apocalypse de Saint Jean, et puis vous aviez cette sorte de messianisme rationaliste qui allait... où l'Europe était le stade intermédiaire avec une gouvernance mondiale par la raison. Ces deux messianismes sont morts. L'Europe est déchristianisée et la social-démocratie s'est volatilisée. Donc, on retrouve quoi ? L'ordre, l'ordolibéralisme le plus cru qui, comme on le disait en commencement, n'excite personne.
Oui, je crois que l'Europe, pour terminer, la croyance est peut-être morte, mais je crois que, si je puis dire, la CFTC est morte, mais la CFDT est encore en marche. Bon, non, ce que je voudrais simplement dire, pour, je réagis à l'expression parapé. Tout à l'heure, Alain s'est repris, quand vous aviez dit l'Europe, il y a les ennemis, etc., il a dit l'altérité. Je crois que c'est fondamental. Je crois que nous ne sommes pas des disciples de Carl Schmitt. Nous ne pensons pas qu'une communauté politique s'organise contre quelqu'un nécessairement. En revanche, nous assumons le fait que les autres sont tous simultanément... J'avais eu une discussion avec Raymond Aron qui m'avait dit ça, qui m'avait dit que Julien Freund avait tort d'avoir pris la dialectique de l'ami et de l'ennemi, mais la dialectique de l'autre et du même, c'est-à-dire l'autre est un associé rival, et nous devons reconnaître ce rapport fondamental au monde, qui est un rapport d'association et de rivalité, et ça implique effectivement que nous prenions conscience de ce que nous sommes, ce que nous nous refusons en tant que peuple, au pluriel, à faire, et nous avons grand tort, c'est là notre carence.
Si bravo. Tous les européistes avaient l'intelligence de Jean-Louis Bourlange, je serais européiste.
Ben oui, mais peut-être qu'il sera écouté en haut lieu. En tout cas,
mais
je vous remercie.
Mais il ne l'est pas, malheureusement.
Je vous remercie tous les deux, Régis Debray. Vous avez publié l'Europe fantôme dans la collection Tract, chez Gallimard. Vous êtes aussi le rédacteur en chef de la belle revue Medium. Comment peut-on être européen ? Enfin, c'est le dernier dossier. Comment peut-on être européen ? Janvier-juin 2019. Et puis, je rappelle, Jean-Luc Bourlange, que vous avez écrit un magnifique article dans un ancien numéro de Politique Internationale sur les raisons pour lesquelles vous étiez hostile à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est le numéro 105 de l'automne 2004. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La France en morceaux ». Mes invités seront Jérôme Fourquet et Jacques Lévy. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Guillaume Ledu. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.